When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2010 et c'est l'épisode numéro 50. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 50, avec Patrick Béja, qui est moi, et Jeff Clavier, qui est
moi.
Monsieur qui va parler maintenant.
Bonjour à tous. 50, dis donc, c'est bien.
Ouais, hein,
c'est un beau chiffre.
J'aime bien, 50, j'aime bien. Ça sera sans doute moins joyeux quand ça sera mon âge, mais à 50, les choses commencent, non?
Ouais, c'est ce que tu dis toujours. De toute façon, à mon âge, on est jeune.
Exactement. Bon, en tout cas, le Rendez-vous Tech est jeune, ça c'est clair. Et vous remarquerez que normalement, il doit y avoir Yann et qu'il n'est pas là. Et que ça fait plusieurs fois qu'il a malheureusement, qu'il ne peut pas assister à l'émission, qu'il ne peut pas être là. Et malheureusement, c'est parce que son vrai travail, j'espère que vous entendez les guillemets dans ma voix, son vrai travail lui demande beaucoup de son temps, ce qui est parfaitement scandaleux. Et hélas, il va à partir de maintenant se faire beaucoup plus rare dans le Rendez-vous Tech. Il essaiera de passer de temps en temps, mais d'ailleurs il sera peut-être là un petit peu plus tard aujourd'hui, mais d'une manière générale il sera sans doute absent. Donc on va se retrouver pour les épisodes où on avait généralement Jeff et moi-même, et Yann, et ben juste à Jeff et moi. Donc, ça va être plus calme, ça va être plus objectif aussi.
Ça va être très Mac, très Steve Jobs, très fanboy Apple.
Non, écoute, moi je ne suis pas fan d'Apple en ce moment, hein, parce que j'ai acheté, comme tu sais, j'ai acheté un Mac il y a quelques semaines, spécifiquement pour faire les podcasts et pour avoir des facilités à faire certaines choses avec les podcasts. Et ben, il se trouve que l'expérience pour l'audio, ça va, il y a des trucs très bien. Pour la vidéo, c'est assez terrible. La EyeSight ne marche pas avec Flash. Alors, on sait que Apple n'aime pas Flash, mais enfin quand même. Et pour réussir à lancer le broadcast Ustream, sur lequel je stream en live généralement, avec la caméra, même en utilisant une webcam externe, ce que je fais en ce moment, c'est la croix et la bannière, ça marche une fois sur deux, par moment ça marche pas, enfin, c'est un problème connu visiblement dans le système en ce moment sur Mac, mais il n'empêche que mes rêves, moi, de tu as un Mac, ça marche tout de suite et t'as pas besoin de t'emmerder, c'est pas vraiment, vraiment réalisé, quoi. C'est un petit peu comme sur Windows, une fois ça marche, une fois ça marche pas, l'audio t'arrives à le capturer, parfois t'arrives pas, parfois ça met le truc que tu veux pas, enfin bref. C'est pas l'idéal.
Ah, tu vois, tu me vois désolé parce que moi j'ai mon MacBook Air et le transfert, l'installation, l'utilisation, ça a été absolument génial et c'est une des plus belles machines que j'ai achetées.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais là, j'aime beaucoup le MacBook Pro que j'ai acheté, mais il est quand même, si tu veux, c'est un ordinateur quoi. Et il a les défauts qu'ont tous les ordinateurs. Alors, quand tu fais des trucs super simples, ça va. Quand tu fais des trucs un poil compliqués, tu peux te retrouver avec des problèmes habituels que tu as un petit peu moins que sous Windows parce que c'est plus contrôlé, mais quand même. Enfin bref. Donc en ce moment, j'ai passé quelques jours à m'énerver quelques sur jours. Le Mac, c'était marrant.
Juste un truc à propos d'Yann, faut savoir que l'heure à laquelle on a choisi d'enregistrer LRDV, c'est relativement pratique pour moi parce que c'est pendant ma pause déjeuner. Pour Yann qui est sur la côte est des États-Unis, enfin du Canada, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce que c'est un enregistrement à 4 heures et clairement être chez lui à 4 heures d'après-midi dans un contexte de boîte de jeu, c'est pas facile quoi. Donc il a fait beaucoup d'efforts pour nous, mais c'est vrai que c'est assez compliqué.
Et oui, hélas, donc effectivement, je voulais conclure sur ce sujet. Donc c'est un horaire, bah, pour moi, c'est 20h, pardon, 22h généralement à Paris, donc je peux pas vraiment le faire plus tard.
J'ai pas de son qui m'arrive.
Ouais. Tu m'entends pas là ?
J'entends que ton micro est... Bah, c'est bon.
Ouais, mais c'est pas le bon micro, attends. Allô, allô ? Là, ça marche.
Tu m'entends là ?
Bon, je suis maudit. Non seulement le Mac m'a emmerdé pendant tout le week-end, mais en plus, là, le PC ne marche pas non plus. Décidément. Bon, j'espère que ça va pas se reproduire pendant l'émission. On verra bien. Bref, donc, on est désolé que Yann ne soit plus avec nous, mais on a quand même un programme assez chargé. Et peut-être qu'il reviendra, donc. On a quand même un programme assez chargé dont on doit vous parler, à commencer par la Freebox Révolution, dont on va vous dire deux mots. C'est une grosse annonce qui a été faite la semaine dernière par Free. On aura aussi des nouvelles du web, auquel a assisté et pendant lequel a officié Jeff. On va également vous parler de Chrome OS et du laptop, du fameux notebook sous Chrome OS, ça c'est un ordinateur portable en français, et de plein de petites autres choses un petit peu plus minimes, un petit peu moins importantes. Mais donc en France, le gros morceau, c'était la Freebox Révolution la semaine dernière, qui a été annoncée par Free en grande pompe pendant une conférence de presse où toute la presse justement était présente. Et Jeff, toi, je crois que t'en as pas vraiment entendu parler aux États-Unis, n'est-ce pas?
Non, pas vraiment. J'ai eu un dîner avec Xavier, donc Xavier Niel, le fondateur de Free, qui m'a dit: tiens, j'en sais un truc, c'est génial, faut que tu suives un peu, mais j'ai pas vraiment suivi, j'en ai juste entendu parler.
D'accord. T'étais occupé à skier, en fait.
Non, je travaillais au bureau.
D'accord. Parce que là, t'es au ski, si je ne m'abuse.
Là, on est en vacances, ouais.
D'accord. Ils ont annoncé la Freebox Révolution. Et qu'est-ce qui se cache sous ce nom un petit peu pompeux? Je dirais pas qu'ils ont réussi le coup de la révolution, mais c'est très certainement le truc le plus ambitieux qu'ils ont lancé depuis l'arrivée de Free en eux-mêmes, enfin l'offre Triple Play, qui, il faut le savoir, est quand même la raison pour laquelle on a des offres très bon marché sur Internet en France, et qui a fait école dans le monde entier. C'est-à-dire que l'offre Triple Play téléphone, télévision, Internet, c'est un standard qui a commencé avec Free en France et avec Free, et qui s'est étendu dans le monde entier. Et là, ils ont un nouveau pari, en quelque sorte. C'est vrai que la Freebox commençait à dormir un petit peu. Ils avaient fait les ajouts de la Freebox sur la télé il y avait eu des évolutions, mais là, ils veulent vraiment en faire une révolution. Et la philosophie du truc est très, très intelligente. En tout cas, ça met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que la nouvelle Freebox, ça a pris comme pari de totalement remplacer toutes les boîtes que vous avez à la maison. Enfin, à côté de la télé, en fait. Que ce soit à la télé, à côté de l'ordinateur, etc. Je résume, hein. La Freebox Révolution, d'une part, elle est designée par Philip Stark. Ça, ils en ont fait tout un tintouin. Moi, je ne la trouve pas super belle, mais bon. Elle est quand même moins moche que l'ancienne. Et ensuite... elle a toutes les fonctions que vous avez depuis toujours avec votre Freebox et votre Freebox, enfin votre Freebox télé, mais elle a aussi des fonctions supplémentaires comme par exemple le lecteur de DVD qui est directement intégré. Elle fait fibre et téléphone classique. Elle fait console de jeu. Alors, c'est pas une console de jeu qui va remplacer votre PlayStation 3 si vous êtes un hardcore gamer, mais ça a à peu près les performances de la Wii, je crois, peut-être un petit peu meilleure, avec une manette qui est également comme une Wiimote que vous allez pouvoir utiliser en vous déplaçant, enfin en la déplaçant plutôt. Il y a également des fonctions de NAS. Pour ceux qui connaissent, c'est un Network Attached Storage, ça veut dire un disque dur dans la machine qui est partagé entre tous vos ordinateurs et qui a des fonctions, même si vos ordinateurs ne sont pas allumés, de stockage de fichiers, qu'ils soient audio ou vidéo. Elle a même un petit haut-parleur sur la machine pour jouer la radio, par exemple, ou d'autres choses. Si vous avez... si vous voulez écouter des trucs sans faire tourner votre ordinateur, elle a des fonctions, elle arrive avec des appareils CPL, courant porteur de ligne, qui vont vous permettre de transférer les données entre les différentes, à d'autres endroits, si vous avez d'autres ordinateurs plus loin, très facilement. Wi-Fi N, qui est un petit peu le standard maintenant, mais quand même, le Wi-Fi très rapide. Enfin bref, j'en oublie certainement parce que, évidemment, il y a une sorte de... Presque. Elle fait une sorte de Google TV, c'est-à-dire que vous avez une interface web sur votre machine qui, moi, m'a pas hyper convaincu, mais c'est comme la Google TV, je suis pas super convaincu par le truc parce que, par exemple, si on veut taper un truc, c'est un clavier qui sort, qui apparaît sur l'écran et faut se balader dessus lettre à lettre. Je suis pas convaincu que ça fonctionne. Mais bon, il n'empêche que elle fait absolument tout et comme je le disais, même lecteur Blu-ray. Je sais pas si je l'ai dit en fait. Si, je crois que je l'ai dit.
Tu avais dit lecteur DVD, mais pas Blu-ray. Ouais.
Pardon. Oui, c'est lecteur Blu-ray en fait, bien sûr. Donc. Wow. Donc c'est vraiment un pari intéressant et ambitieux qui est de se dire cette boîte va tout remplacer et le plus fort dans... énorme truc aussi que j'oubliais, il y a accessoirement les appels vers les téléphones mobiles en France métropolitaine intégrés au forfait. C'est-à-dire que votre forfait inclut aussi les appels vers tous les téléphones mobiles en illimité. Donc, c'est un très, très gros coût. La question du prix est un petit peu délicate. Disons qu'ils ont dit c'est toujours le même prix, c'est 29,90. Il y a un petit astérisque que je détaillerai plus tard. Mais première réaction, Jeff, toi qui vis aux États-Unis et qui connais quand même la situation française, Freebox évolution, coup d'épée dans l'eau. Bon, clairement pas coup d'épée dans l'eau, qu'est-ce que t'en penses?
Non, pas coup d'épée dans l'eau. Je pense que le coût du triple play, c'est quelque chose que, comme tu l'as dit, est maintenant offert par tous les opérateurs ici aux États-Unis. Tu as même AT&T qui offre en plus la possibilité d'avoir, donc le quadruple play, qui est la possibilité d'avoir en plus ton forfait téléphone portable par leur biais.
Oui, il y en a qui le font aussi en France aujourd'hui. Mm-hmm.
Et donc la Freebox Révolution, la première chose à laquelle je pense, c'est la fiabilité de ce truc, ça va être intéressant parce que c'est quand même des fonctionnalités qui sont assez recherchées. C'est des choses qui vont tomber en rade assez souvent et quand tu vas mettre tout sur dans la même boîte, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Je pense que
j'avais pas pensé à ça. Si elle tombe en rade, c'est tout qui tombe en rade. Mais enfin, c'est solide ces trucs. Enfin, peut-être qu'il y a trop de. Ouais, bref.
Je pense que pour dans une volonté en fait de démocratisation de toutes ces technologies, c'est un super pari parce que bon, il y a beaucoup de gens qui n'iraient pas aller chercher du Blu-ray, qui ne mettrait pas le truc sur le courant pour la distribution de données, etc. Donc je pense que c'est un pari super intéressant. Faudra voir un petit peu ce que les gens vont effectivement utiliser sur la boîte, en plus des fonctionnalités habituelles, standards qu'ils ont avec leur Freebox actuel. Est-ce qu'il y a des chiffres d'upgrade?
Je crois, enfin, j'ai pas vu de chiffres officiels, mais je crois que ça a super bien marché. Évidemment, les gens qui sont chez Free se sont rués dessus, qui sont un peu geeks. J'ai vu 2 millions de demandes d'upgrade dans la première semaine. Ça me paraît beaucoup. C'est un chiffre qui sortait de nulle part. Je suis pas complètement convaincu qu'il soit légitime, mais c'est clair que les gens vont se jeter dessus si vous êtes déjà chez Free. En même temps, moi. Le truc, c'est que je n'ai plus de télé depuis bien longtemps. Et donc, je ne suis pas certain que ces nouvelles fonctions, hormis la discussion, enfin les téléphones portables, et encore, je ne suis pas sûr, je passe plus des heures sur mon téléphone. Quoi. Mon forfait en fait, de téléphone portable me suffit largement. Donc, C'est pour moi spécifiquement, c'est pas, je suis pas certain que. D'ailleurs, je l'ai pas commandé, comme les gens le savent peut-être. Je suis chez Free et chez Numericable. Bon, c'est notre sponsor, full disclosure bien sûr. Donc moi spécifiquement, j'en ai pas une utilité énorme de cette nouvelle Freebox. Mais c'est clair que c'est un énorme. Enfin, si tu veux, on a l'impression que le marché des fournisseurs d'accès Internet est un truc un petit peu pépère et qu'il y en a un qui vient mettre le foutoir et faire avancer les choses par la concurrence, qui est une chose hyper saine pour Free et pour les autres, parce que ça les bouge un peu. Et là, ils l'ont fait, en tout cas, clairement. Ils ont amené quelque chose en plus et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui seront effectivement intéressés. Donc, pour moi, pas forcément, mais dans l'absolu, c'est une belle opération, je pense.
Je pense que pour un argumentaire de « je dois prendre un accès à Internet chez qui je vais », tu vas chez Free, tu ne te poses pas la question. Est-ce que c'est suffisant pour te faire bouger de chez Orange ou de chez… je ne sais même plus qui est-ce qui…
Ouais, tu veux maintenant. Dire ceux qui sont déjà chez Free, voilà. Ils vont upgrader, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer de quelqu'un d'autre à Free?
Ouais.
Enfin, il y en aura sûrement, avec, il y en a toujours.
Avec ces fonctionnalités-là, parce que pour moi, en fait, c'est une question de, c'est une question de fiabilité de service, c'est une question de rapidité. C'est sympa d'avoir toutes ces fonctionnalités. Je sais pas, en fait, je suis un peu comme toi, moi, je n'utilise jamais la télé, donc le fait d'avoir un lecteur de Blu-ray, je m'en foutrais. Tu vois, c'est pour moi là. L'intérêt, c'est de dire, bah tiens, c'est intéressant, on va tester, c'est le côté geek. Mais tu vois, si mes parents me disent qu'ils pensent de la Freebox Révolution, je leur dirais, bon, de toute façon, vous n'avez pas de bourré.
C'est marrant, je pensais que tu serais plus enthousiaste. Dans la chatroom, tiens, je vais faire un petit sondage express.
Est-ce qu'ils font des backups automatiques? Parce que moi, en fait, dans ma configuration à la maison, au bureau, j'ai des TAM machines, donc des TAM capsules d'Apple qui sont des systèmes donc qui vont te faire un backup de tes disques de façon transparente, c'est de l'incrémental, etc. Et si tu vois, c'est là où j'insiste. Pour moi, en fait, la grosse fonctionnalité, c'est le NAS et le backup incrémental transparent. Ça, c'est gros parce que typiquement, les gens s'en soucient pas.
D'accord. Disons que c'est un network attach storage. En gros, c'est un disque dur. Je suis sûr qu'il sera possible de s'en servir pour faire des backups automatiques. Que ce soit, peut-être qu'ils fourniront pas le logiciel pour immédiatement, mais je suis sûr qu'il y aura des logiciels qui s'en serviront. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de petites fonctions. Moi, je trouve que c'est quand même un gros coup, quoi. C'est quand même oui, il y a des gens dans la chatroom qui disent oui, ça marche, un NAS, ça marche avec Time Machine, mais c'est pas exactement ce qu'on dit. On demande est-ce que sur n'importe quel PC, parce que Time Machine c'est Mac, est-ce que sur n'importe quel PC ça va vous sauvegarder vos données automatiquement et ce genre de fonction. Bon, ça sera sûrement possible. D'une manière générale, il y a plein de petits trucs qui font que, dans l'ensemble, ça l'amène un petit peu au-dessus de ce que c'était avant et ça fait bouger un petit peu les choses.
Non, c'est bon. Super. Question à la chatroom, c'est quoi la fonctionnalité ou les fonctionnalités les plus intéressantes pour vous, les plus celles qui sont, en gros, celles qui vous feront upgrader juste parce qu'elles sont là, plus que, oh, bah tiens, je veux la révolution parce que c'est la dernière boîte.
Ouais. Tiens, bonne question. On va attendre qu'ils répondent. Mobile illimité, nous dit-on. Sur le coup, il y en a qui disent qu'ils ont envie de changer, mais ils se demandent s'il est 120 euros. Ils lui demandent 120 euros pour changer. Bon, évidemment, il faut payer pour avoir la nouvelle. C'est complètement normal. Certains disent le disque dur, téléphone illimité, tout. Donc, effectivement, il y a plein de petits trucs un peu partout. Et dans l'ensemble, ça ratisse très large. Je pense qu'ils auront... Ils auront des clients qui vont être intéressés.
C'est vrai que le mobile illimité, c'est, enfin, pour nous, en fait, on n'a pas la notion de distinction au niveau du plan d'appel entre le téléphone normal et le téléphone mobile. Ouais. Donc, pour nous, ça fait partie de la local loop. Donc, pour nous, aux États-Unis, on ne s'en préoccupe pas. Mais c'est vrai que ça, c'est énorme.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les forfaits de téléphone mobile en France sont les plus chers du monde. Hein. Enfin, du monde peut-être pas, mais d'Europe, c'est clair. Et petite anecdote, quand Orange vous dit les SMS quand vous êtes en Europe sont au même prix que quand vous êtes en France, vous vous dites « Oh ouais, super cool, c'est bien, j'ai pas payé beaucoup plus ». Sauf que, en fait, la raison, c'est que l'Union européenne a mis une limite au prix des SMS dans l'Europe. et qu'en France, en interne, on est déjà à cette limite. Donc forcément, quand on sort de France, on ne peut pas faire payer plus cher.
Combien tu payes pour un SMS ?
Bah moi, j'ai un forfait avec SMS illimité, donc je ne paye rien. Mais un SMS, généralement, c'est quoi ? 20, 30 centimes, quelque chose comme ça ?
Wow !
Ah ouais, non, mais c'est de la folie. Bref, pour revenir sur Free, dans la chatroom, on me dit 10 à 15 centimes. Bon. L'autre question avec cette révolution, tout le monde s'est dit bon bah est-ce qu'ils vont enfin faire augmenter leur prix, parce que c'est vrai qu'ils sont depuis un long moment à 29,90 €. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'augmenteraient pas le prix, donc toujours pour 29,90 €. Là où il y avait une petite astérisque qui a fait un petit peu de bruit dans les jours qui ont suivi, c'est que c'est bien 29,90 €, sauf si vous êtes en dégroupage total. Le dégroupage total, c'est quand vous n'avez plus d'abonnement France Télécom et que vous êtes uniquement chez Free pour votre ligne téléphonique. Eh bien, avec le dégroupage total, en fait, ils vous font payer 6 ou 7 € supplémentaires, que je vous dis pas de bêtises, 5,99 € supplémentaires, avec la logique que si vous n'êtes pas en dégroupage total, vous devez payer votre abonnement France Télécom qui est d'à peu près 15 € par mois. Si vous êtes en dégroupage total, eux, ils ne vous feront payer que 6 € de plus. Et avant, ils ne faisaient rien payer. Donc en fait, les gens qui sont en dégroupage total vont devoir payer 6 € de plus. Alors, il y a des gens qui ont un petit peu gueulé parce qu'ils disaient « Oui, mais non, finalement, c'est pas le même prix, machin ». Moi, je comprends qu'ils soient obligés d'augmenter leur prix, quoi. Surtout qu'ils offrent des services supplémentaires énormes. Ça ne me choque pas du tout qu'ils soient obligés d'augmenter le prix. Et même avec la fameuse taxe Barouin-Sarkozy qui risque d'arriver de 2 ou 3 euros d'ici quelques mois. Bon, bah, on en avait déjà discuté. C'est vrai
quoi,
que ça fait un petit... c'est une taxe qui risque d'arriver sur les abonnements parce que les... Enfin, c'est pas vraiment une taxe Barouin-Sarkozy, en fait. Enfin, oui, elle s'appelle la taxe Barouin-Sarkozy. C'est pas vraiment eux qui la veulent. Le fait est que la TVA était différente sur différents éléments offerts par les fournisseurs d'accès Internet sur les triple play. Donc, ils mettent tout ça au niveau. Bref.
Ouais, je m'en rappelle. Le point sur le coût du dégroupage complet, faut quand même se rappeler qu'il y a un coût de raccordement au réseau téléphonique, puisque in fine, il va falloir que tu droppes tes appels sur le réseau téléphonique. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, c'est clairement un coût fixe que tu dois supporter. Mmh. Et donc, le fait qu'ils te fassent payer un tiers de ce que tu devrais payer chez France Télécom, il ne faut pas exagérer, quoi.
Ouais, non, c'est sûr.
C'est légitime.
Et même là, on se retrouve à 35,98 € par mois en dégroupage total. Ce qui est vraiment pas super cher pour tous les services qu'ils offrent, donc moi ça me choque pas du tout.
Et pour ça tu as quoi ?
Tous les services de la Freebox Révolution, tous ceux dont on a parlé, quoi. Alors t'as téléphonie qui est très bien puisqu'elle inclut, comme on le disait, les mobiles, internet.
Accès
si
à combien ?
Vous êtes fibré, c'est la fibre, je sais plus combien elle fait la fibre chez Free, mais bon, c'est très très rapide. Le truc, c'est que Free, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, on me corrigera dans la chatroom, mais je crois qu'ils sont un petit peu en retard sur la fibre. On vous parle souvent de Numericable, bien sûr, puisque c'est notre sponsor. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais mon impression, c'est que Free est un petit peu en retard quand même. Moi, j'avais cherché régulièrement sur la fibre, la carte des fibrés, et c'est pas encore ça, mais bon. Ça va arriver dans les années à venir. Et donc, on a aussi la télévision. Là encore, je suis vraiment objectif. Hein, je dis ce que je pense parce que ce qu'il faudrait dire par rapport à... Enfin, ce que mon sponsor nous dit de dire. Mais la télévision chez Free, ce n'est pas non plus la panacée, quoi. Il y a des chaînes ouzbèques, ukrainiennes et Dieu sait quoi. C'est pas pour la télévision qu'on prend Free encore. Mais il y a quand même, tu vois, la TNT, tout ça, il y a Free. Enfin, pardon, il y a la télévision, le téléphone et Internet, l'offre Triple Play et toutes les offres de la nouvelle Freebox Révolution.
Tu vois, juste pour donner une comparaison, si moi, maintenant, je suis passé chez Comcast à la maison, donc ça fait du 20 mégas down, du 3 mégas up et je pourrais passer à 50 mégas sur du câble, hein, c'est pas encore de la fibre.
Ouais.
Et pour ça, j'ai un package promotionnel entre le câble télé et l'accès à Internet à 59,90 €. Je pourrais avoir la téléphonie en plus à 79, je crois. Mais au bout d'un an, tu vas te retrouver à payer 150, 160 $. Hein.
Ah oui.
Donc, c'est quand même non négligeable. Hein.
Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais ça, et je vous, enfin bref, effectivement, il y a du très très bon dans tout ça et dans les offres internet en général en France, quoi. Donc voilà, la Freebox Révolution, en tout cas, il faut garder un œil dessus. Il y a plein de choses super intéressantes. Et puis, je pense qu'on va en entendre parler à l'avenir, surtout que ça va obliger les autres opérateurs un petit peu pépères, là encore, comme SFR et Orange, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit, qui ont laissé leur réseau, enfin, pas leur réseau vieillir, mais leur offre se faire un petit peu... standard, ça va les obliger à réagir aussi et ça sera très bien pour Internet sur tout le territoire français. Deuxième sujet, on a passé beaucoup de temps sur la Freebox Révolution, mais elle le méritait bien. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est la fameuse conférence Le Web, à laquelle Mister Clavier était présent et modérait quelques panels, enfin quelques discussions. Alors moi, malheureusement, j'étais en vadrouille entre la Russie et l'Ukraine, et etc. Donc, j'ai pas pu y aller. Mais heureusement, puisque tu y étais, tu vas pouvoir nous faire un petit bilan du web. D'abord, en commençant par expliquer de quoi il s'agit pour ceux qui connaissent pas encore.
Oui, donc la conférence Le Web, c'est un événement qui existe depuis maintenant 8 ans. Ça a été lancé par Loïc Lemeur, qui était sur le rendez-vous tech quelquefois, et son épouse Géraldine, qui fait en gros tout le boulot. Et puisque Loïc, en fait, pour lui, c'est vraiment le contenu et Géraldine, c'est l'infrastructure. Et je pense qu'aujourd'hui, le web s'est vraiment installé comme l'événement européen phare et, je veux dire, un événement mondial, puisqu'on a, on a accueilli plus de 3000 personnes sur 2 jours à Paris, avec un contenu qui était monstrueux. J'ai arrêté de compter le nombre d'intervenants à 100. Je crois qu'en tout, il y en avait 114, un truc comme ça. Et ce que j'ai
en
beaucoup apprécié...
En gros, c'est la conférence tech européenne et même qui prend une grosse place dans le monde depuis quelques... Enfin, à vrai dire, c'est la première fois, moi, aujourd'hui, je l'ai vu de loin, cette année, c'est la première fois où j'ai vu que vraiment, pardon, il y avait des répercussions dans les médias au même titre que pour n'importe quelle autre conférence de ce type-là, quoi.
Exactement, exactement. C'était en fait l'événement marquant pour moi cette année, au-delà du chiffre, j'ai 3000 Pékin, je peux te dire. On a 3 halls d'exposition, c'est gigantesque. C'est au nord de Paris, quand il neige, c'est la merde. et donc, ça, l'aspect taille, l'aspect rendez-vous, l'aspect international, c'est quelque chose que j'ai noté depuis des années, mais cette année, c'est vrai que pour la première fois, il y a eu vraiment des scoops. C'est-à-dire que un des cofondateurs de Twitter, Jason Goldman, a annoncé sur au web qu'il partait, qu'il prenait sa retraite. Et ça, c'était absolument pas prévu, personne n'était au courant, il a lâché ça comme ça. Et donc le mec qui l'interviewait, je vais aller faire un post là tout de suite. bougez pas, je reviens. Parce que c'était quelqu'un de TechCrunch. on a eu donc une conversation entre Loïc et Dennis Crowley, le CEO de Foursquare, à propos de cette acquisition soi-disant, maintenant une rumeur qui est réelle, un rachat par Facebook. Un mec de Microsoft a dit
excuse-moi, j'avais pas suivi cette partie de l'histoire. Foursquare se fait racheter par Facebook, c'est sûr?
Non, il se faisait pas racheter, mais il y a eu une discussion.
Ah oui, et d'accord, ok.
Ils étaient en discussion. Autour de 140 millions. En fait, Loïc a extrait les vers du nez, si j'ose dire, de Dennis qui ne s'y attendait pas. Il y a eu ce Gus de Microsoft qui a dit ouais, on essaie de racheter Facebook pour je sais plus combien de milliards. Et en gros, c'est quelque chose qui n'a jamais été confirmé. Et derrière, Microsoft a dû, en catastrophe, confirmer cette news au travers d'une annonce à la presse, et je peux te dire que le copain
il s'est fait engueuler.
s'est fait engueuler parce que c'est pas le genre de choses que tu drops comme ça sur une...
Mais c'est ça, en fait, le signe d'une bonne conférence, c'est quand tu réussis à faire dire à quelqu'un ce qu'il ne voulait pas dire, donc ce qu'il n'était pas censé dire.
Sur 2 jours, c'était franchement un rendez-vous incroyable, quoi. Alors, on a eu effectivement le petit problème de la neige qui a complètement bloqué Paris le premier jour, et donc il fallait Marissa Mayer devait repartir, donc en gros je me suis
Marissa Mayer dont on vous a déjà parlé, qui était la VP de search, de la recherche chez Google, qui a changé de poste maintenant, Mais c'est une grosse, grosse. Enfin, c'est l'une des personnes les plus puissantes de la Silicon Valley.
Oui, qui a un rendez-vous avec le web donc depuis maintenant 3 ans. Et donc, on s'est retrouvé dans le métro avec elle, Mike Harrington, Robert Scoble, pour que je les dépose à leur hôtel en métro.
Parce qu'ils
ne pouvaient
pas prendre de voiture, c'était bloqué partout.
Ah oui, Paris était absolument impraticable. C'était assez incroyable. Et ils l'ont fait, je ne veux pas dire dans la joie à la bonne humeur, mais en tout cas dans la bonne humeur.
D'accord. Ok, donc c'était une bonne expérience, quoi.
Oui, c'était quelque chose qui était, c'était vraiment un événement qui était remarquable, puisque bon, on avait tous les grands patrons de l'informatique française, donc Jacques-Antoine Grangeon, Vente Privée, Xavier Niel, donc Free, on vient d'en parler, Marc Simoncini, Mythique, Pierre Cusco-Morisset, Presse Ministère, ils étaient là, ils étaient à l'arrière, ils étaient c'est parti du jury donc du concours des startups. C'était super sympa, ils étaient faciles à accéder, donc j'ai vraiment trouvé ça sympa.
D'accord. Et Loïc était content sur les rotules, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il
Loïc
prend de cette...
Loïc était complètement explosé.
Parce qu'il a commencé cette conférence à quelques blogueurs il y a une dizaine d'années. C'était vraiment un tout petit truc qu'il a commencé comme ça pour se retrouver et puis que ça prenne une telle ampleur.
Ouais, bah, c'était les blogs, c'était très sympa. On avait fait ça au Sénat. Il fallait que tout le monde passe par le détecteur de métaux, donc ça avait pris un temps fou pour lancer le truc. Et c'était une centaine, on était 100, 120. Ouais. Donc très sympa, tu vois maintenant une organisation d'une centaine de personnes, plus que ça d'ailleurs pendant la conférence, une infrastructure absolument monstrueuse, un giga de bande passante pour la journée, 4000 PC, téléphones connectés sans un glitch, donc ça c'est les copains de British Telecom qui ont fait un excellent boulot. Non, c'est une infrastructure monstrueuse et c'est devenu en fait un rendez-vous majeur. Là, il y a plein de boîtes qui ont annoncé des choses, qui se sont lancées là. Donc c'est ce qui m'étonne, enfin ça m'étonne plus, mais je vois en fait dans les vols qui amènent les gens de la vallée à Paris, je veux dire c'est.
Faut réserver quelques mois à l'avance, quoi.
Tu aurais en fait un contenu de conférence. Silicon Valley, je veux dire, tout ce qui se fait de très propre, avec les gens qui vont au web. Donc, c'est franchement notable. Donc, bravo Loïc, bravo Géraldine.
Bravo à eux. Et un petit... on a quand même un petit peu de quoi être fier, puisque c'est un truc français, donc un mini cocorico en même temps. Donc, j'espère que l'année prochaine, je pourrai y être. J'espère, croisons les doigts, j'espère qu'on s'y retrouvera. Écoute, je vais continuer à te faire parler, tu as l'air en forme, puisque on a une autre petite information intéressante sur Google cette fois-ci, puisque Paul Buchheit,
Paul Buchheit.
Buchheit, ah d'accord.
Paul Buchheit.
Buchheit, qui est le créateur de Gmail en gros, le mec qui était à l'origine de Gmail, donc c'est un type qu'on écoute quand il dit quelque chose, a dit... que le Chrome OS, dont le prototype est sorti il n'y a pas si longtemps, disparaîtrait dans un an, ou alors ferait une fusion avec Android. Donc il n'y croit pas du tout à Chrome OS, il croit que c'est un OS qui n'a pas vraiment d'avenir. C'est très très surprenant, venant de la part de quelqu'un comme ça. Mais toi, donc, tu as testé le fameux, comment il s'appelle déjà
Le CR48.
Voilà, le CR48, c'est un nom super sexy. Donc, c'est ce portable sous Chrome OS. Rappelons-le, Chrome OS, c'est un OS, donc un système d'exploitation comme Windows ou Mac OS, qui est entièrement dépendant du web. Donc, vous devez être connecté en permanence pour l'utiliser et il se sert uniquement d'applications de web app, donc de Gmail, de Facebook, d'éditeurs, enfin de Google Docs, de tout ça. Il n'y a pas de logiciel qui tourne en local sur votre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas Internet, eh ben, vous êtes dans la mouise. Qu'en as-tu pensé après l'avoir testé ?
Alors, un petit commentaire sur la sortie de Paul. Donc, Paul, effectivement, a inventé Gmail. Donc, il a écrit Gmail. Il a été aussi un des principaux développeurs derrière le système de publicité de Google, AdWords. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, et il était dans les 20, 30, 40 premiers Googlers. Donc, ça veut dire qu'il s'est fait un paquet de pognon. Et donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est considéré comme un des geeks qu'on écoute beaucoup dans la vallée, parce que c'est quelqu'un qui est assez très proche de la technique. Et c'est vrai que c'est pas inintéressant comme sortie. Il y a deux choses que je soulignerais. Un, c'est vrai que Google a quand même un gros historique de produits un peu foireux. Donc là, le dernier qu'ils sont en train d'annuler, c'est Google Latitude, hein, qui était en fait leur Foursquare à eux. Donc ils ont mis beaucoup de produits sur le marché qu'ils ont retirés. Donc je pense qu'il y a
Buzz n'est pas encore retiré, mais il marche pas du tout. Wave, enfin il y en a plein. Oui,
Wave est mort. Donc il y a ce côté-là. Je pense que in fine, qu'est-ce que veut faire Google avec Chrome OS ? C'est trouver une solution pour des centaines de milliers d'opérateurs, de petits business, etc., qui ont besoin de fonctionnalités basées en grande partie maintenant sur le cloud et qui ne veulent pas gérer en fait un ordinateur, une installation, une maintenance. Et c'est vrai que cette approche telle le CR48, qui est vraiment un prototype, c'est une espèce de boîte hein, qui n'est là que pour démontrer les fonctionnalités de Chrome OS, c'est tout. C'est essayer de voir comment on peut remplacer le PC dans des contextes très très particuliers. Et je pense que...
Oui, donc quand tu dis des contextes très très particuliers, ils ne le destinent pas à la même utilisation qu'un ordinateur classique en fait.
Au grand marché, j'ai du mal à le voir.
Peut-être, mais...
C'est vraiment un prototype. Bon, ça me rappelle un peu les tout premiers ThinkPad, si tu es suffisamment vieux pour te rappeler des tout premiers ThinkPad. Donc une boîte...
Les tout premiers portables d'IBM, en fait.
Voilà, des premiers portables d'IBM, mais les ThinkPad, parce que c'était ça, en fait, tu vois, boîte noire, clavier assez sympa, un écran décent, une petite caméra. Bon, c'est pas mal hein, pour un premier proto. J'ai trouvé que ça marchait pas mal. Donc, tu bootes sous un navigateur Chrome. Donc, tu te retrouves chez toi si tu as un compte Gmail qui te synchronise tout. En gros, tu fais la synchro, tu récupères tes bookmarks, tu récupères tout. Et puis, à partir de ce moment-là,
en gros, tu bootes et tu n'as que le navigateur. C'est comme si tu lançais Windows ou macOS et ton navigateur occupait toute la fenêtre et tu n'as que ça avec différents onglets.
Voilà. Et tu n'as pas d'application en local. Bon, tu as la possibilité d'avoir des fenêtres de config, tu peux avoir quelques pop-up, etc., mais c'est relativement restreint. Et donc, tu vas utiliser ton compte Gmail, tu vas tout faire en remote, tu vas utiliser YouTube. Et ça marche bien jusqu'au moment où tu commences à utiliser du...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flash.
Parce que l'implémentation Flash est vraiment merdeux, vraiment merdique, et donc c'est très lent. Il n'y a pas le côté performance, alors que bon, chez nous on a quand même une bonne bande passante, et c'était en gros le plus gros problème que j'ai pu trouver. Donc en un mot, Chrome OS c'est décent pour son objectif. Ça, c'est pas de mal avec que ça va remplacer un PC ou un Mac, mais dans un contexte de terminal où tu veux un truc qui fonctionne, où tu n'as rien à installer, tu n'as rien à maintenir, je pense qu'il y a un marché. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, sur ramener Android et Chrome OS ensemble, je pense que c'est une remarque intéressante. C'est le pari qu'a fait Apple avec iOS. Donc, tu as iOS sur le téléphone et sur l'iPad, ce qui, à mon sens, pour l'iPad, était vraiment un très bon choix. Le problème, c'est qu'un un OS de type Android sur un ordinateur, je pense que ce sera quand même assez limité. Donc, à mon
Bah,
avis,
le
c'est
truc,
soit
c'est
ils arrivent à...
que...
Vas-y.
Non, pour moi, la différence principale, c'est que mine de rien, c'est presque paradoxal, mais Chrome OS a moins d'overhead, a moins de performance que Android, parce qu'Android, tu dois avoir du stockage d'applications sur la machine. En gros, Chrome OS, si on caricature énormément, ça pourrait être le navigateur d'Android, tu vois? Et tu pourrais avoir le navigateur d'un côté et tout le reste de l'autre. Et si tu veux rajouter tout le reste, un ordinateur du type le CR48, il faut que tu rajoutes des trucs parce qu'il faut qu'il ait plus d'espace de stockage. Tu vas commencer à y mettre ta musique peut-être, tes films, etc. C'est plus du tout la même philosophie, c'est plus la même machine. Là, c'est presque une machine jetable. La machine n'a aucune importance. C'est un écran, un clavier et une connexion Internet. Donc, c'est vraiment une philosophie qui, à mon avis, est difficilement compatible. Ou alors, effectivement, comme il le dit, c'est jeter Chrome OS. Ça n'a plus du tout l'attrait de la légèreté de Chrome OS.
Oui, et je pense que, tu vois, dans un contexte d'utilisation très jour le jour où tu vas faire du Gmail, du YouTube, regarder des photos, etc., franchement, quelque chose comme ça pour mes parents, ce serait, une fois que c'est bien stable, c'est génial parce que j'ai pas besoin de gérer les virus, j'ai pas besoin de gérer la version de l'OS qui s'installe pas, etc.
Ouais.
Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc je regarde ce développement de façon assez intéressante. Tu vois, le test que j'ai fait, c'est j'ai joué avec le CR48. Enfin, j'ai joué, j'ai essayé. Pour moi, en fait, jouer, c'est quoi? C'est j'utilise l'ordinateur pendant une journée. Et je
Ouais.
vois si j'arrive à m'y retrouver. C'est clairement pour moi ça allait pas. Mais je l'ai donné à ma fille, donc qui vient d'avoir 10 ans, et ça marche très
C'est
bien jusqu'au
relativement.
moment où elle fait du YouTube et elle dit c'est lent, je veux mon Mac.
D'accord.
Donc
Ouais, donc même
tu vois,
sur
je pense
YouTube,
qu'il y a un segment quand même.
même sur YouTube, bon, qui est en Flash, bien sûr, il peut être passé en HTML5, mais c'est une autre histoire. Même sur YouTube, c'est trop. Bon, c'est encore un prototype, c'est le début, mais comme on le disait, c'est un peu tôt, mais il peut y avoir des utilisations a priori intéressantes
Et je
à
pense qu'il faut
l'avenir.
vraiment, il faut vraiment passer au-delà du CR48 en tant que boîte, parce que c'est clairement quelque chose qu'ils ont fait. Tu vois, quand ils m'ont dit, tiens, tu veux un CR48, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils me disent, non, non, c'est notre ordinateur Google OS, enfin Chrome OS, on veut juste avoir du feedback, toi t'es un chieur,
Ouais,
donc qu'est-ce que tu veux, quoi. Et donc je
d'accord.
l'ai récupéré. Et puis là maintenant j'attends mon Nexus S.
Ah, tu vas le tester aussi?
Bah je vais essayer,
Bon, tu
parce
nous
que c'est
diras
quand
de
même
quoi
assez
il
simple.
s'agit.
J'attends, en fait, je veux voir le Nexus S et j'attends avec impatience d'avoir un des très bons Windows Mobile 7 là, que les copains Microsoft m'ont promis, parce que
D'accord.
c'est quand même assez intéressant comme approche.
Ah oui, c'est sûr. Et le Nexus 16, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau téléphone de Google, enfin certifié par Google en fait. C'est leur machine qui est construite par HTC cette fois-ci. C'est ça. Autre nouvelle, un truc, allez, on va rigoler un petit peu, on était très sérieux. Enfin, rigoler, oui, quand même, vous allez comprendre. Le fameux hack de Gawker. Alors, Gawker, c'est une série de sites extrêmement, extrêmement connus. Comme Gizmodo, hein, vous le connaissez, Lifehacker, etc., etc. C'est eux qui font Valleywag aussi, je crois bien.
C'est eux qui font. Oui, ils ont un peu plié Valleywag, c'est-à-dire Nick
D'accord.
Denton, qui est l'éditeur de Gawker et le fondateur de Gawker, avec Gaby Derbyshire, donc les deux fondateurs, ont lancé, un peu comme Jason Calacanis à l'époque, tout un tas de sites où ils ont
Ouais,
essayé
de
de
blog,
créer une
ouais.
communauté et du trafic. Et puis, ils ont gardé les plus gros et ils ont coupé ceux qui n'avaient pas
D'accord.
de performance. Et ça marche très bien, en fait.
Ça marche très très bien. C'est un petit peu les Rambos du blog, ils y vont un petit peu cash. Bref, ils ont été hackés et leur base de données de login et de mot de passe a été complètement piratée et rendue publique. Donc, et évidemment, c'est un gros gros blog. Donc vous imaginez si un gros blog français se fait hacker. Tous les mots de passe qui deviennent publics, tout le monde va s'en donner à cœur joie. D'une part, il faut immédiatement. Alors ça vaut pour vous aussi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien lire les blogs, même les blogs américains dans l'audience, enfin chez nos auditeurs. Si vous aviez un login, enfin un compte chez l'un de ces sites-là, il faut aller changer votre mot de passe là-bas. Et si vous l'utilisiez ailleurs, le même mot de passe, ce qui n'est pas bien du
Changer.
tout, il faut le changer aussi. Alors. je vais vous passer toutes les histoires de c'est pas bien, il faut sécuriser, c'est machin, c'est tel groupe qui a fait ça parce qu'ils ont dit que Gawker, ils sont prétentieux et machin et truc. Bref, le truc vraiment marrant, c'est des gens qui ont pris cette liste de mots de passe et qui ont compilé des statistiques pour savoir d'une part quels étaient les mots de passe les plus utilisés et d'autre part rigoler un petit peu. Alors, je sais pas, t'as vu les articles, j'imagine ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F.
Le mot de passe le plus utilisé, les deux mots de passe les plus utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et password pour les deux mots de passe les plus utilisés. C'est hallucinant à quel point les gens utilisent des mots de passe hyper faciles à trouver, quoi. Alors, je vous fais la liste au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, tout de suite, évidemment,
c'est vachement plus dur.
Lifehack, QWERTY, ABC123. Je connais quelqu'un qui utilise ABC123 en plus. 1111111. Là, au milieu, on ne sait pas pourquoi, Monkey. On ne sait pas ce que viennent foutre les singes là-dedans. Il doit y avoir une histoire marrante là-dessus. Consumer, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Let me in, etc., etc. Bon, après, ça change un petit peu, mais enfin, il y a des trucs genre Gizmodo. C'est hallucinant le peu de sécurité que les gens font pour leur mot de passe. Alors, on peut dire évidemment qu'il y a des gens qui vont utiliser ce truc juste pour faire leurs commentaires, qui se foutent de leur compte sur les sites de Gawker, et donc qui vont mettre un mot de passe dont ils se foutent. Oui. Peut-être. Bad Fred demande si QWERTY n'est pas dans le top 10. Bien sûr qu'il est dans le top 10. C'est même le sixième. Oui, ils peuvent dire ça, mais il n'empêche, c'est quand même pas très sérieux, quoi, de faire un mot de passe de ce genre-là. Surtout que généralement, les gens qui vont utiliser ce genre de mot de passe... T-Ben Studio dit mon mot de passe, c'est Béja. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir.
Alors, je noterai quand même que Let Me In est un mot de passe historique des systèmes administrateurs Unix, dont je faisais partie il y a très longtemps. Donc, Let Me In, c'était bien souvent un mot de passe utilisé avec Let Me In 0, Let Me In, etc. Alors, il faut savoir quand même que ça a été pris extrêmement au sérieux. LinkedIn a scanné la liste de tous les comptes qui avaient été utilisés, enfin des mots de passe, pardon, des adresses email qui avaient été utilisées, et a bloqué et a forcé une régénération de mots de passe pour tous ces comptes. C'est-à-dire qu'un jour...
Il y a d'autres sociétés qui ont fait ça aussi.
Ouais. Ouais, je reçois une note de LinkedIn en disant, bon, mon coco, t'étais sur Alice Gawker, pssst, paf, on t'a pété ton mot de passe, tu dois le régénérer, et ça ne peut pas être celui que tu avais utilisé.
Oui, ça a été pris très, très, très au sérieux. Il y a plusieurs boîtes qui ont fait ça, qui ont testé, enfin, qui ont scanné la liste des adresses email hackées et qui ont envoyé des emails aux gens concernés, etc., etc. Mais bon, bref, il y a pas grand chose à dire sur cette histoire, hein. Aucun site n'est totalement 100% sécurisé et il vaut toujours mieux avoir. Le problème, c'est que la solution n'est pas facile, quoi. Est-ce que vous utilisez un mot de passe super compliqué, mais vous utilisez le même partout? Ça, c'est pas bien. Est-ce que vous en utilisez deux ou trois différents? Est-ce que vous avez une sorte d'algorithme que vous faites en fonction de trucs que vous seul connaissez pour pouvoir vous en souvenir?
Moi, c'est ce que je fais. J'en ai un par site.
Ouais, bah voilà, il y a des gens qui font ça.
Mais bon, c'est le bordel. Hein, c'est...
un des trucs que les gens... Bah évidemment, c'est le bordel. Alors, tu finis par les noter quelque part et puis machin. Un des trucs que les gens recommandent, c'est d'utiliser des logiciels comme 1Password ou LastPass qui vont générer des mots de passe automatiquement et vous les réentrez automatiquement sans que vous ayez à vous en soucier. Et du coup, vous n'utilisez que ce logiciel et vous ne vous souvenez que du mot de passe de ce logiciel. Alors, il y a des extensions sur Chrome, des logiciels que vous pouvez télécharger et qui vont stocker toute cette liste de mots de passe de manière très, très sécurisée. Bref. Il n'y a pas de solution super simple, mais ça a mis ce problème un petit peu en avant. Et puis, c'était quand même marrant de voir les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout ça. C'était amusant.
Non, je pense qu'effectivement, c'est, euh, c'est quelque chose d'important. Trop souvent, les gens vont tourner sur un ou deux mots de passe. Donc, tu peux dire, j'ai le mot de passe des sites dont je me fous, donc genre Gawker. Si on me hack, quelqu'un peut faire un commentaire sur Valleywag en tant que moi. Bon, pas super cool, mais bon, à la limite, c'est gérable. Et puis derrière, j'ai mon compte Mint, j'ai mon compte à la banque, etc., avec un mot de passe différent. Je pense que se forcer à avoir un mot de passe par site ou utiliser un truc comme LastPass en leur donnant en fait les clés de l'empire, quoi, parce que si jamais eux se font hacker, t'es mort, quoi.
Ah bah c'est clair, oui. Oui, bon, autre sujet intéressant, à propos de Wikileaks, alors deux choses à propos de Wikileaks. D'une part, j'aimerais remercier les gens qui sont venus mettre des commentaires sur le blog. À propos du dernier épisode avec Jérôme, on avait discuté assez longuement de Wikileaks. Je ne vais pas revenir beaucoup sur le sujet, juste pour dire merci beaucoup de vos commentaires parce qu'ils ont rappelé plusieurs choses intéressantes que je tenais à signaler. D'une part, Wikileaks a livré les documents d'abord à la presse en leur demandant d'analyser ces documents et de s'assurer que les choses, des informations dangereuses n'étaient pas diffusées. Alors, c'est peut-être difficile de croire que la presse a regardé les 500 000 documents ou la quantité de documents qu'il y avait, mais ce n'était pas juste livré au public comme ça, sans aucune analyse. Ce qu'on disait pouvait laisser entendre que c'était un petit peu moins consciencieux, leur travail. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que l'accusation de viol de Julian Assange, qu'on a évoqué vaguement parce que je crois que c'est tellement énorme, que c'est tellement fabriqué, enfin ça a l'air tellement fabriqué que je ne voulais pas trop passer de temps dessus, mais il est important de préciser que ce n'est pas un viol au sens où on l'entend nous au quotidien. C'est une clause vraiment spécifique dans le droit suédois qui spécifie le sexe à risque. C'est-à-dire que l'accusation n'est pas qu'il a attrapé une nana dans un parking, c'est qu'il a couché avec une fille et on n'est pas tout à fait certain de ce qui s'est passé, mais soit il n'aurait pas utilisé de préservatif, soit le préservatif se serait déchiré. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu une précision sur ce fait. C'est pas non plus aussi alarmant qu'on aurait pu le penser. Voilà, ça c'était pour les précisions. L'autre chose dont je voulais parler à propos de Wikileaks, et donc merci aux gens sur le blog qui sont venus discuter, et n'hésitez pas à le faire vous aussi si vous attrapez des choses sur lesquelles il faudrait donner des précisions. Et donc l'autre chose que je voulais dire, c'est que l'US Air Force a bloqué le New York Times et le Guardian à cause de Wikileaks, parce que pour une raison qui est un petit peu marrante mais intéressante à la fois, c'est que les documents qui sont livrés au public par Wikileaks sont toujours des documents classés top secret. Or, s'ils apparaissent sur le New York Times et le Guardian, par exemple, ils sont quand même top secret. Donc, l'armée selon leur procédure, doivent bloquer l'accès à ces sites. Donc on se retrouve dans des situations un petit peu ubuesques où l'armée bloque l'accès à des sites complètement publics parce que les documents qui y sont censés être top secrets. Donc ça fait rire, c'est un petit peu débile de se dire l'armée bloque l'accès à des journaux parce qu'ils ont publié des informations qui ont été diffusées par Wikileaks. On peut se dire Big Brother machin, mais en même temps c'est vrai que si c'est des documents top secret, bon là c'est une situation qui fait que ça devient ridicule, mais est-ce que c'est quand même pas normal qu'ils bloquent le truc si les documents ironiquement sont toujours classés top secret même si tout le monde peut les lire?
On en a parlé un petit peu pendant l'interview que j'ai fait de Tom Glosser, donc le grand patron de Thomson Reuters au web, et je lui ai dit WikiLeaks, on a dans l'histoire, et donc j'ai passé 12 ans dans la mouvance Reuters, d'abord dans une start-up et après notre acquisition par Reuters, donc je connais assez bien les problématiques d'éthique journalistique, etc., qui étaient confrontées en fait à la fois les journalistes et le reste du groupe. Et je lui dis, donc, comment tu vois les choses? Et il me dit, écoute, de toute façon, c'est notre devoir de faire cette espèce de nettoyage des documents pour éviter que des personnes, des opérateurs, donc, soient mis à risque. Mais bon, ce sont des choses qui sont énormes. Aux États-Unis, c'est le rôle de la presse, on se rappelle du Watergate, etc. Et donc, c'est à nous aussi de participer à la communication de ce genre de news, quoi. Mais son point, c'était il faut impérativement que le gouvernement revoie complètement leurs procédures pour que des documents aussi secrets et aussi potentiellement dommageables lorsqu'ils deviennent publics ne soient pas à la disposition de tout le monde, quoi.
Tout à fait, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Ça tombe bien parce que c'est quelqu'un d'un peu intelligent qui l'a faite. Donc si je disais conneries.
Non, Tom est quelqu'un de remarquable et j'avais pointé sur mon Twitter une interview qu'il a fait pendant le web, complètement en français pendant 6-8 minutes. Et franchement, avec une maîtrise du langage que j'aimerais bien parler aussi bien anglais que lui parle français.
Si vous voulez voir ça sur le Twitter de Jeff, vous remontez un petit peu. Autre info qui peut prêter à sourire, mais qui est quand même intéressante. Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, a été nommé par le Time Magazine, événement extrêmement important, la personne de l'année, le fameux Person of the Year. Cette année, c'est Mark Zuckerberg. Alors, ça fait sourire parce que c'est juste l'année où il y a le film et on a un peu l'impression que Time débarque après 90% du monde. Mais, alors, je dirais deux choses. Pardon. D'abord, ils ont trouvé une photo assez incroyable de Mark Zuckerberg. Il a un regard pointu et la photo est spéciale, vraiment jolie. Et d'autre part, moi, ça fait des mois que je dis ce qu'a fait Zuckerberg avec Facebook, même au sein de toutes les controverses et les histoires et machin, il a fait un boulot invraisemblable avec Facebook. Et aujourd'hui, Facebook est une institution qui a une importance qu'on ne pouvait pas soupçonner, même il y a un an ou 18 mois. C'était déjà énorme, mais pas... Enfin, il a continué sur la voie, il a étendu, enfin, il a fait un travail incroyable. Et à mon sens, c'est ce que je disais sur Twitter moi aussi, je ne sais pas si c'est forcément la personne de l'année, je suis sûr qu'on pourrait en sortir beaucoup d'autres, mais ça ne me choque pas du tout qu'il soit en tout cas dans le top des gens qu'on va considérer pour cette position, enfin c'est pas une position, mais pour cette mention. Je demande à la chatroom, est-ce que vous pensez que c'est justifié, Zuckerberg, personne de l'année ou pas? Et je te demande à toi aussi, Jeff, pendant qu'il réponde.
Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qu'a fait Marc, c'est assez incroyable. C'est-à-dire, c'est quand même un gamin qui a lancé ce site. Pas mal de drames autour du lancement, comme on l'a vu dans le film The Social Network, que je n'ai toujours pas été voir d'ailleurs, parce que c'est quand même, c'est d'après ce que j'ai entendu, c'est un bon film, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé, donc bon. Et surtout, on n'a pas donné crédit à Sean Parker pour tout le travail qu'il a fait au tout début, je pense, puisqu'ils ont gardé en fait le côté assez intéressant de la personnalité de Parker, mais ils n'ont pas franchement insisté sur le travail qu'il a fait vraiment dans les tranchées pour que Facebook en fait décolle au tout début. Donc 500 millions d'utilisateurs, bientôt 600 millions, ils ont déjà passé les 600 millions, c'est énorme, et je pense que un jour on verra Facebook avec 1 milliard d'utilisateurs, et quand tu penses à ce chiffre, tu te dis c'est quand même beaucoup, hein,
puisque, ça on est d'accord, oui.
Non, mais quand tu commences à réfléchir à ce que ça veut dire, tu vois, c'est Facebook va envoyer 1 milliard d'emails par jour. Facebook va avoir donc le plus gros outil de photo partage de photos du web en étant plus gros que l'ensemble de tous les autres additionnés.
Donc entre parenthèses, ils ont lancé le système de reconnaissance de visage aussi. Enfin, ils continuent à travailler sur tout, quoi.
Et donc, je pense que c'est légitime de dire ce qu'a fait Marc en tant que visionnaire, en tant que un petit jeune qui est à la tête d'une énorme organisation qui est extrêmement importante. Je pense que c'est remarquable. Et tu vois le mec, il est quand même super impressionnant pour quelqu'un de son âge. Alors, la question, c'est est-ce qu'il devrait être le Time Magazine Person of the Year cette année? Est-ce que, tu vois, les mineurs chiliens, le gros débat aux États-Unis, c'était pourquoi lui et pas les mineurs chiliens? Parce que les mineurs chiliens, je veux dire, ce qu'ils ont fait, ils ont survécu pendant 30, 40, je ne sais plus combien de jours sous la terre. Ils s'en sont sortis dans un contexte qui était franchement exceptionnel. Bon, jamais on entendra parler encore de ces gus-là, alors que Marc, il sera Person of the Year encore deux ou trois fois dans les années qui viennent. Donc bon, c'était en fait, je ne veux pas dire la controverse, mais c'était juste la question, quoi.
Ouais, d'accord. Entre parenthèses, Bad Fred dans la chatroom, merci, nous donne une phrase que Julian Assange, dont venait de parler la personne de Wikileaks, a dit à propos de Mark Zuckerberg qui devient Person of the Year. Il dit: quelle est la différence entre Mark Zuckerberg et moi? Moi, je donne des informations privées des grandes sociétés au public gratuitement. Je suis un méchant. Zuckerberg donne des informations privées aux sociétés, vos informations privées aux sociétés, et c'est la personne de l'année. Voilà la différence. C'est marrant. Mais bon, bref, voilà, si vous avez des idées particulièrement arrêtées sur la chose, au moins vous pourrez en discuter maintenant, puisque cette phrase me semble assez appropriée. Dernière chose avant de passer aux news et rumeurs, l'une des choses dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est la difficulté qu'a Google, comme toutes les autres grosses sociétés, à évoluer de manière efficace et rapide et à réagir au marché et aux besoins des utilisateurs. Et on apprend que Google aurait décidé il y a peu de lancer quelques parties de sa propre société, enfin de les autonomiser, en fait, ce qu'ils appellent des autonomous business units, donc des unités de travail autonomes, des unités commerciales autonomes, qui seraient en fait des départements de Google qui n'auraient aucun compte à rendre à personne et qui travailleraient eux-mêmes tout seuls pour pouvoir être beaucoup plus fluide, rapide, tout ça. A priori, ça pourrait être très intéressant. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va tomber dans ce cadre-là chez Google, mais non seulement c'est intéressant, moi, vu de l'extérieur en tant que béotien, je me dis que c'est même une excellente décision qui risque de nuire un petit peu à la synergie entre toutes les différentes parties de Google, mais il n'empêche, ça sera au final bénéfique, puisque ça leur permettra de réagir et de donner aux gens ce dont ils ont besoin un petit peu plus vite, sans avoir les tonnes d'administrations qui viennent avec les grosses sociétés. Donc moi, pour moi, vu de l'extérieur, je me dis « ouais, super idée ». Jeff, toi qui connais le fonctionnement des grosses sociétés et des petites, tu vas certainement me dire pourquoi j'ai tort.
Non, je pense que c'est légitime. Ils ont un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, le business donc, du search, la recherche et tout ce qui est AdWords, AdSense, représente une partie monstrueuse de leurs revenus. Et ils ont du mal, en fait, à faire décoller d'autres lignes de business qui leur permettraient d'avoir un petit peu plus de balance pour le futur. Parce que bon, aujourd'hui, c'est clairement le géant du domaine. Ils continuent à prendre des parts de marché. Bon, on pense qu'ils vont enfin, finalement, réussir à faire de la monétisation autour de YouTube. Donc ça, c'est positif. Mais c'est clair que pour lancer des nouveaux... Tu vois, par exemple, le souci, c'est le business de l'entreprise. Donc, ils ont un serveur de cache, de recherche que tu peux avoir. Tu peux acheter un truc pour accéder à ton web interne et,
pardon,
et créer...
Pardon, j'ai pas compris.
Ils ont plein de petits produits pour l'entreprise, du genre... tu peux avoir ton moteur de recherche pour l'entreprise, c'est-à-dire tu le mets à l'intérieur de ton firewall, tu pointes sur tes sites internes et ça va te donner en gros ton mini Google pour toi. Bon, d'accord. Tout ça, ce sont des business qui sont monstrueux, c'est-à-dire que ça représente des centaines de millions de dollars, mais c'est un peu traité comme le parent pauvre. Ouais. Donc, un des soucis, les soucis que Google a, un, c'est la partie compétitivité au niveau recrutement et rétention, c'est-à-dire Google est traditionnellement raidé par Twitter, par Facebook, et on avait parlé récemment dans un autre LRDV, ils sont obligés en fait de mettre des ponts d'or sur les ingénieurs pour que les gens restent. C'est souvent connu et dénoncé que aussi l'Operating Committee, donc qui est la dizaine de gus qui font tourner Google, a beaucoup trop la main mise en fait sur tout ce qui se passe dans la société. Et donc ça me paraît une bonne chose qu'ils soient un peu plus agressifs sur une fidélisation. La question, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à adapter leur méthode de management pour en tirer parti, quoi. Ouais.
C'est sûr que c'est pas évident, c'est une transition qui est difficile, mais au moins on peut saluer l'essai. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent qui se disent nous aussi on bosse dans un paquebot et ça serait pas mal d'avoir un petit peu plus d'autonomie pour tel ou tel truc parce que ah si on pouvait faire seulement ça ou seulement ça, ça serait tellement plus simple. Mais bon, c'est pas toujours aussi facile dans les grandes entreprises et c'est très admirable de la part de Google de prendre cette direction. On va voir si ça se fera véritablement, quoi.
Surtout quand tu sais que pour être significatif chez Google, il faut que tu aies une ligne de business entre 500 millions et 1 milliard, quoi. Sinon, tu n'es rien. Quoi. Juste en passant, tu vois.
Oui, accessoirement. Et voilà, c'était notre dernière grosse news. On va passer aux news et rumeurs. Juste après...
Ouais, je vais en rajouter une parce que tu ne veux jamais en parler. Ah. C'est que donc on a vu la sortie il y a une dizaine de jours de Cataclysm, la dernière version de World of Warcraft, dont par définition Patrick ne parlera pas, mais qui a vendu 3,3 millions de boîtes d'accès en 48 heures, 24 heures, 36 heures,
ouais.
24 heures. 24 ce qui heures. Est absolument monstrueux.
Oui, c'est vrai que j'en parle pas trop puisque certains d'entre vous le savent, mon employeur c'est Blizzard Entertainment qui est l'éditeur de World of Warcraft. Et effectivement, le jeu qui est sorti a fait des bons chiffres de vente. Il a battu le record de vente établi par la précédente extension. Donc effectivement, c'était une grosse nouvelle en gaming.
J'ai enfin réussi à aller me loguer pour commencer à jouer et c'est super parce que bon j'étais quand même un peu busy, mais Patrick, je peux vous dire, n'en parle pas, mais d'ailleurs c'était pas au programme, c'est moi qui rajoute ça au dernier moment, mais je peux vous dire que quand on l'a retrouvé à son retour de Russie, il était crevé mais il avait un grand sourire et il a mangé un gros hamburger et un gros brownie pour fêter ça.
Oui, non, mais tu sais que ça me manque hein, de ne pas en parler. Pour ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis peu de temps, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai commencé mes aventures podcastiennes dans une émission qui s'appelait Azeroth.fr. Voilà, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Jeff et moi nous sommes rencontrés. Et c'était mon tout premier podcast et je suis toujours un joueur assidu de World of Warcraft. C'était un podcast sur World of Warcraft, donc sur le jeu. Et parfois, ça me manque de pas en parler, parfois, tout le temps. Hein. J'aimerais pouvoir encore participer à ces podcasts. Mais bon, effectivement, le fait que je travaille chez Blizzard me l'interdit un petit peu. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir que les gens apprécient le jeu, ça c'est certain. Bon, passons donc au sponsor. Comme je le disais, Numericable est notre sponsor, vous le savez bien. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Numericable est intéressant. Entre parenthèses, je ne vais pas faire la comparaison un petit peu facile avec Free, comme je ne fais jamais la comparaison avec d'autres. Je pense que Numericable a des atouts qui sont suffisamment intéressants pour qu'ils restent valables sans qu'on fasse la comparaison de qui a la plus grosse. Donc je vous laisse vous-même découvrir ces atouts en vous les citant les uns après les autres, puisque Numericable a lancé sa NC Box Power, qui est une offre Triple Play, qui vous permet donc d'avoir la télévision, le téléphone et Internet. Elle coûte 39,90€ par mois, mais la télévision d'une part est très intéressante, puisque évidemment Numericable, c'était à l'origine le câble, donc ils connaissent la télé, ils savent les choses qui vous intéressent dans la télé, et ils vous donnent 150 chaînes, dont 15 chaînes en HD, et c'est pas n'importe quelle chaîne, c'est-à-dire que c'est des chaînes qui sont vraiment choisies, comme Sci-Fi, 13e rue, série Club, un petit peu mythique, Game One qui est en HD, ça je pense que ça vous intéressera. Donc ça c'est pour la partie télé. Il y a la partie téléphone qui vous permet de bénéficier de 100 destinations à l'international en illimité et l'ensemble des services numéricables. Pour la partie internet, vous avez, si vous êtes connecté à la fibre, et comme on le disait, Numericable est quand même très en avance sur le fibrage en France et sur Paris en particulier, vous avez donc une connexion à 100 mégas, ainsi qu'une connexion supplémentaire à 30 mégas près de la télé, donc sur le décodeur TV, si vous avez des trucs à faire sur votre ordinateur et des trucs à faire près de la télé, comme votre console par exemple, ça sera pas, l'une ne bouffera pas l'autre, ce qui n'est pas le cas pour la DSL. Et En plus de ça, Numéricable vous offre 12 mois de films en VOD, c'est-à-dire un film par mois dans la boutique Virgin Mega. Si vous avez envie de vous faire un petit film le soir, et bah, vous lancez ça, c'est immédiat et c'est assez pratique. Vous le voyez, vous le regardez en 2 secondes, pas besoin de descendre dans la neige et le froid au Vidéoclub. D'ailleurs, il n'y a plus de Vidéoclub nulle part, donc ça règle la question. Et donc, si vous êtes intéressé, en plus de tout ça, vous pouvez avoir l'offre spéciale qui est de payer 29,90€ pendant 4 mois et les frais d'ouverture offerts, ce qui veut dire que vous allez économiser jusqu'à 150€. Donc, si vous voulez soutenir No Watch et obtenir des informations supplémentaires sur les offres Numéricables, vous passez par le portail nowatch.tv et vous cliquez sur la bannière Numéricables. Je pense qu'il y a de quoi séduire pas mal de gens. Merci à eux. Et on continue dans notre émission avec les news et rumeurs, comme d'habitude, des news qui vont aller un petit peu plus vite que les news générales dont on vous parlait tout à l'heure. Première chose, l'email est protégé par le 4e amendement aux États-Unis. Magnifique. C'est une question quand même qui se posait, c'est-à-dire est-ce que l'email fait partie de ces informations qui sont protégées par les lois sur la vie privée ? Eh bien, dans un des cas aux États-Unis, il a été décidé que oui. Donc, nous, ça nous paraît normal, mais c'est plutôt une bonne chose. L'Internet est devenu aussi populaire que la télé. Ça a pris un moment, mais les gens passent aujourd'hui, en moyenne, hein, bien sûr, autant de temps sur Internet que sur la télé. Moi, ça ne me surprend pas énormément. Je passe zéro temps sur la télé, donc forcément. Mais toi, Jeff, tu passes du temps sur la télé encore ?
Non.
D'accord. Ben non, là, donc,
Le seul truc que je regarde de temps en temps aux États-Unis, et en fait je download sur iTunes, c'est Glee.
D'accord, la série bien connue, effectivement. Quoi d'autre ? Des trucs intéressants. Le gouvernement chinois a lancé un Twitter, un service Twitter, enfin similaire à Twitter, officiel. Donc c'est sympa, ça vous donne les bonnes paroles de Mao, ce genre de choses. Donc si vous voulez aller sur le Twitter surveillé du gouvernement de la République populaire de Chine, bah maintenant vous pouvez. Je suis sûr que ça va être super intéressant comme histoire. Aujourd'hui, j'ai labouré les champs à la gloire du parti. Oui, super, moi aussi. Quoi d'autre ? Microsoft a annoncé qu'au CES, il y aurait tout plein de tablettes. Ouais, ok, je vois que ça...
Yeah.
Plein de tablettes.
Le Galaxy Tab est pas si naze que ce que je pensais, donc on verra.
Ah, c'est vrai ?
Bon, ouais. C'est pas génial, j'en ai pas, mais bon, j'ai vu des démos, ouais. C'est pas si mal que ça.
D'accord. Mieux que tu pensais, c'est déjà ça. Quoi d'autre ? Bah écoute, je crois que c'est tout. Ça va suffire pour cet épisode. J'avais une liste des trucs genre les plus top moumoutes de l'année. Tout le monde commence à sortir ses listes genre les tweets les plus puissants, les meilleures vidéos, les machins. On le gardera peut-être pour le prochain épisode. Là, on a fait déjà un petit peu long, donc c'est pas plus mal. Et on a en plus... pas de statosphère de Guillaume. Donc, je ne sais pas si c'est passé. C'est la première fois que Guillaume ne m'envoie pas sa statosphère. Peut-être qu'il ne pensait pas qu'on ferait l'épisode. Mais vous savez quoi ? Je vais quand même donner le nom de son site, statosphère.fr, qui nous donne toujours des chiffres sympathiques sur l'actualité du net et de la technologie. Et on arrive à la fin de l'émission. Jeff, dis-moi, comment les gens peuvent-ils te retrouver sur l'Internet du cybernaute ?
Bien écoute, twitter.com/Jeff, plancast.com/Jeff et autrement Jeff Clavier un peu partout.
Pour ma part, c'est patrickbeja.com où vous retrouvez tous les liens vers les sites de réseaux sociaux, etc., dont NotePatrick sur Twitter. Et d'une manière générale, vous pouvez aller sur nowatch.net pour découvrir toutes sortes de podcasts sympathiques et intéressants. Notamment un podcast qui s'appelle Season 1, tu parlais de séries. Si vous aimez les séries, vous pouvez écouter Season 1 qui est animé par Sophie et Alex et qui vous parlera de toutes vos séries préférées. Je pense que vous aurez de quoi passer de bons moments avec cette émission sur nowatch.fm. Bah voilà, on vous dit merci à tous. On vous souhaite de bonnes vacances et puis un joyeux Noël.
Puisque... Et puis une bonne année, parce que nous, on ne fera pas un NRDV avant l'année prochaine. Donc,
ouais, exactement.
Bonne fête, bonne année, mangez pas trop. Profitez bien du sapin, des amis. Et si vous allez au ski, bonne neige.
Et rendez-vous en 2011. Merci à tous. Ciao, ciao.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.